Chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur RCF, bienvenue dans notre chronique de bioéthique, une émission animée par Constance Del Marmol et par moi-même, Guillaume Dos Santos. Pour cette émission, nous avons la grande joie d'accueillir Valentine Delecourt qui vient nous partager une expérience de vie bouleversante qu'elle et sa famille ont pu vivre il y a quelques années et qui a débouché sur la création d'une initiative fantastique, la Fondation Lali. Valentine Delecourt, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Valentine Delecourt, vous êtes juriste, maman, mais aussi écrivain, puisque vous avez publié 3 et même maintenant 4 romans en l'espace de quelques années. Si nous avions eu l'envie de vous recevoir dans cette émission, c'est pour parler d'un projet que vous avez lancé il y a 5 ans maintenant, la Fondation Lali. Pour mieux comprendre la création et la mission de cette Fondation Lali, il est sans doute bon de prendre le temps d'écouter votre témoignage, de vous écouter, nous raconter cet épisode de votre vie qui en est à l'origine, un épisode qui s'apparente à un vrai cataclysme pour vous et pour votre famille.
Oui, effectivement, puisqu'il y a presque 5 ans, j'ai perdu mon petit garçon de 4 ans. Il est tombé le jour de son anniversaire de 4 ans. Il est monté avec ses cousines et sa sœur. Il s'est glissé par un trou du grenier dont nous ignorions même l'existence. Ils ont été joués sur le puits de lumière. Et ce puits de lumière n'avait pas été prévu pour qu'on puisse sauter ou même marcher dessus. Il a cédé sous son poids. Mon fils a fait une chute de 14 mètres. Et il a été hospitalisé pendant 5 jours. Et après 5 jours, malheureusement, il est décédé parce qu'il avait un œdème cérébral qui a pris tellement de place que malheureusement... sa vie s'est achevée.
Mais de manière assez inattendue dans cet épisode dramatique, c'est finalement la vie qui a refait surface. Vous nous expliquez ?
Oui, tout à fait. En réalité, très vite, on s'est dit que la mort ne pouvait pas gagner, que c'était la vie qui devait gagner. Et en fait, au moment où les médecins nous ont annoncé qu'il était décédé, ils ont repris leur respiration. Vraiment, je n'exagère pas, il devait y avoir 3 secondes entre l'annonce de « c'est terminé » et entre cette phrase « et maintenant, nous voudrions vous parler de quelque chose ». Et en réalité, je vous assure, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'on pouvait me vouloir. Je croyais même qu'on allait essayer de me vendre des tickets pour le bal de Saint-Luc, vous voyez, qui était l'hôpital où était hospitalisé mon fils. Et en fait, pas du tout, ils nous ont dit « voilà, on voudrait vous parler du don d'organes. Votre fils... était en parfaite santé et il y a beaucoup d'enfants qui sont en attente d'organes. Et ils ont dit, on vous laisse le temps de réfléchir, nous allons sortir de la pièce. Et avec le père de mon fils, on s'est juste regardé, on s'est dit, non, on n'a pas du tout besoin de réfléchir, c'est évident qu'on est d'accord, c'est tout à fait en adéquation avec nos idées et nos valeurs. Et donc, grâce aux organes de mon fils, il y a 5 enfants qui vivent. Alors, une chose est que 5 enfants sont vivants grâce à lui, mais une autre chose est de se dire que même physiquement, mon fils n'est pas mort puisque ses poumons respirent, son cœur bat, serre un filtre, etc. etc. Donc, c'est étrange, mais c'est une vraie consolation. Voilà, la mort n'a vraiment pas gagné. Alors, c'est vrai, j'ai plus mon fils physiquement dans les bras, mais physiquement, il est vivant. Et puis je voulais aussi qu'il soit vivant aussi autrement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette fondation Lali. Donc là, il vit également. Lali est vivant. Il a une vraie existence juridique. Et la fondation Lali retrace en fait dans ses 4 piliers ce que nous avons vécu. Le premier pilier est un pilier très actif d'ailleurs, qui s'occupe de la prévention des accidents domestiques. Puisque... les accidents, on sait, outre les maladies, une des principales causes de décès des enfants, ce sont les accidents domestiques. Dans une maison, on se croit en sécurité, on a raison d'ailleurs de se croire en sécurité. Or, en réalité, les enfants, il peut leur arriver des accidents et même très graves. Et donc, nous avons mis sur notre site, si vous allez sur le site, vous verrez, il y a une maison des dangers, qui est en néerlandais et en français, qui montre tous les dangers possibles et comment les résoudre, les minimiser, etc. Et puis, nous allons aussi dans des écoles et nous faisons des formations aux enfants assez ludiques En ce qui concerne les accidents domestiques, comment les éviter, on leur apprend à appeler le 112, etc., etc. Donc pour le moment, nous faisons ça dans une école pilote qui s'appelle l'école Magellan, mais nous sommes en discussion avec la commune d'Ixelles qui aimerait bien qu'on continue, et si d'autres communes sont intéressées par notre formation et si des bénévoles trouvent intéressant de venir avec moi faire ça, je serais ravie d'étoffer mon équipe.
C'est un appel pour nos auditeurs, si certains se sentent une vocation.
Donc ça, c'est le pilier des accidents domestiques. Le deuxième pilier, c'est le financement de la recherche sur le cerveau. Parce qu'on a une habitude, nous maintenant en Occident, on a mal à la gorge, on va chez le médecin, il y a des médicaments, on a mal aux oreilles, il y a un diagnostic. Le médecin sait ce que vous avez, le médecin vous dit comment agir, et si vous agissez comme ça, vous guérissez. Mais pour le cerveau, c'est pas du tout comme ça. On s'est trouvé complètement démunis, nous qui n'avions jamais eu une maladie grave, devant des médecins qui disent « on ne sait pas ». On ne peut pas vous dire si votre fils va se réveiller ou non de son coma. On ne peut pas vous dire à quel point il sera diminué. Est-ce qu'il aura un handicap physique? Est-ce qu'il aura un handicap mental? Est-ce qu'il aura les deux? Est-ce qu'il n'aura rien? On ne sait rien. Va-t-il survivre? Va-t-il mourir? On ne peut juste attendre. Parce qu'en fait, sur le cerveau, on ne sait encore presque rien. Et donc, nous mettons sur pied des bourses pour financer de la recherche. Et donc, nous faisons des événements pour récolter des fonds. Donc, par exemple, notre prochain événement, c'est le 19 mai, un concert à Flagey, afin de récolter des fonds pour cela. Notre troisième pilier, c'est la sensibilisation aux dons d'organes. On a une loi merveilleuse en Belgique, qui est la loi résumée par « qui ne dit mot consent ». Vous pouvez faire une démarche volontaire pour le don d'organes, vous pouvez aussi ne rien faire. Et si vos organes sont compatibles avec ce qui est recherché, ils pourront être donnés. Mais il se passe qu'en Belgique, bien sûr, de manière très humaine, si la famille s'oppose, eh bien, les médecins n'iront jamais à l'encontre de la volonté de la famille. Donc c'est pour ça que nous sensibilisons pour que les gens réfléchissent et communiquent à leur famille quel est leur avis là-dessus. On peut vraiment sauver des vies. Il y a 1500 personnes en Belgique qui sont dans l'attente d'un don d'organes. Et puis le quatrième pilier, c'est le pilier de l'après, d'après le décès de Lali, c'est l'accompagnement dans le deuil. Et on fait de l'accompagnement dans le deuil d'autres parents. Parce que quand Lali est partie, je me suis rendu compte que parler avec des gens qui n'avaient pas vécu ça, des professionnels, des psys, etc., ce n'avait pas du tout autant de valeur ni autant de sens que de parler avec des gens qui avaient simplement vécu ça.
Merci beaucoup, Valentine Delecourt, pour ce très beau témoignage, pour ce témoignage très fort que vous nous offrez, la présentation de votre fondation. Nous reprendrons notre échange après une courte pause musicale. Merci.
J'ai découvert qui je suis, tout a changé.
Chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur RCF. Nous nous retrouvons donc dans notre chronique de bioéthique en compagnie de Valentine Delecour. Valentine Delecour, la maman de Charles, décédé accidentellement en 2015 à l'âge de 4 ans et dont l'accident va non seulement être source de vie, comme on l'a vu avec le don d'organes, mais va aussi être à l'origine d'une fondation, la fondation Lali, qui porte en fait le surnom de Charles. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, Valentine, sur ce travail de deuil qui a suivi l'accident de Charles et sur ce que vous faites justement avec votre fondation pour aider à ce travail?
Alors, il y a la partie du deuil comme moi je l'ai vécu, et puis il y a la partie du deuil comme les autres personnes le vivent. Je pense que c'est quelque chose de très intime. Parce que je suis convaincue que les événements de la vie, quels qu'ils soient, ont le sens que nous leur donnons. Et ils dépendent de notre interprétation créatrice. Il y a beaucoup de parents endeuillés qui écrivent un livre, par exemple, ou qui font une fondation, qui veulent améliorer le monde après, pour que ça n'arrive pas aux autres, pour les prévenir ou pour les aider. Et à ce sujet, Gustave Thibon dit que le monde extérieur ne fournit que la matière, mais que c'est notre monde intérieur qui crée la forme et le sens. Et je pense que pour surmonter un deuil, il est très important de lui donner du sens. Et le deuil, ça ressemble très fort à un long hiver. Et il est lent, il est froid, il est solitaire, et puis tout d'un coup, il y a cette phrase de Camus qui dit: au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il existait en moi un invincible été. Et tout d'un coup, on se rend compte de ça, que la flamme, elle est toujours là. Et si on a la chance d'avoir la foi, eh bien, cet invincible été, ça peut être ça. Parce que l'impossible, qui est de garder cette relation d'amour avec la personne qui est partie, eh bien, c'est impossible, Dieu peut nous la donner, la foi peut nous la donner, parce que la personne, on ne la voit pas physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'elle est absente. Et une relation d'amour peut se maintenir totalement. Alors, elle n'est plus physique, on n'a plus l'odeur, les baisers, mais on a cet amour et on a ce lien, c'est cette ficelle qui nous relie au ciel. Et je pense qu'on a le meilleur des ambassadeurs. Je pense qu'il nous aime totalement, qu'il veille sur nous, qu'il nous aide. Et on peut leur demander des signes quand on a des doutes et ils nous répondent. Je pense que notre meilleur allié est de l'autre côté. Mais ça ne veut pas dire que la vie est amputée. Pas du tout. Et quelle pureté quand même, cet amour qui se maintient au-delà de la vie. C'est Simone Veil qui a dit que aimer purement, c'est consentir à la distance. C'est adorer la distance entre soi et ce qu'on aime. Alors évidemment, c'est pas facile comme ça, mais ça s'intègre tout doucement avec les mois. Et j'aime beaucoup la poésie, et Victor Hugo, pour moi, c'est le poète qui a le mieux parlé du chagrin. Il a perdu sa fille Léopoldine, comme vous le savez, et puis pendant des années, il fait des poèmes désespérés, et puis un jour, le temps passe, et il commence à faire des poèmes délicieux de grand-père et de confiture. Il avait intégré ce décès, et je pense qu'il l'a intégré parce qu'il dit cette phrase très belle qui dit « La beauté de la mort, c'est la présence ». Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. L'être pleuré est disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage. Nous nous sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Et donc aujourd'hui, en fait, la mort, elle est intégrée à ma vie. Je la regarde en face et je l'accepte comme faisant partie de mon existence aujourd'hui. Parce que je pense que la peur de la mort ou la peur du chagrin, c'est encore plus handicapant dans la vie. Y compris la peur de ceux qui ont du chagrin. Ou la peur de ceux qui sont entourés de mort. Peut-être qu'en fait, le deuil, ça a fait disparaître la peur. Je suis convaincue que si j'ai peur de la mort, je lui sacrifie une partie de ma vie. Et j'aurai une vie un peu amputée. Et si je veux une vie complète, je ne peux pas exclure cette possibilité-là. En l'accueillant, la personne en deuil enrichit sa vie.
Est-ce qu'on comprend bien encore à notre époque ce travail de deuil? Est-ce qu'on lui accorde encore toute son importance? Et comment, justement, dans ce contexte, est-ce que vous, avec, notamment avec votre fondation, vous aidez les parents, justement, à vivre ce moment?
Alors moi, je propose aux mamans, si bien sûr elles n'habitent pas trop loin, de venir juste chez moi. Et on se met au coin du feu en hiver ou sur la terrasse en été. Et on peut manger des cookies ou boire du thé. Et je leur explique que je ne suis pas psy, je n'ai pas de formation. Mais simplement, j'ai vécu la même chose qu'elles. Et à deux, on va pleurer ou rire. Elles vont montrer ce que leur enfant écrit, leurs dessins ou leurs petits chaussons, suivant l'âge de l'enfant disparu. Et ils vont juste, l'espace d'un moment, pouvoir maintenir cet enfant vivant, vraiment. Et souvent, elles me demandent, est-ce que c'est normal que je me perde dans le quartier? Est-ce que c'est normal que je ne sache plus cuisiner? Est-ce que c'est normal que je déteste mes copines qui ont des tas d'enfants magnifiques et en pleine santé? Et voilà, et je peux leur promettre qu'il y a moyen d'être heureux de nouveau après. Peut-être même avec un bonheur encore plus ancré.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être pour nos auditeurs le type d'activité justement que vous proposez avec la fondation Lali que vous avez pu mettre sur pied depuis sa création?
Nous avons mis sur pied des conférences, des formations aux premiers secours, des tas de réflexions sur les accidents domestiques, de la sensibilisation aux dons d'organes, des conférences aussi sur le deuil. Donc nous essayons de faire plein de choses autour des quatre piliers.
Et vous avez parlé d'un événement à Flagey qui aura lieu bientôt. Est-ce que vous pourriez juste le rappeler pour nos auditeurs?
Oui, le 19 mai, il y aura un grand concert à la salle Flagey auquel vous êtes tous bienvenus.
Et je pense aussi aux auditeurs qui souhaiteraient soutenir la fondation Lali. Que pourriez-vous leur conseiller?
Eh bien, suivant ce qui les intéresse, de nous envoyer un mail et de venir soit gonfler notre équipe de bénévoles, soit de nous faire un don.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et surtout merci pour votre très beau témoignage, pour vos paroles lumineuses. Nous nous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de notre émission, après une courte pause musicale.
J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Thank you.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans notre chronique de bioéthique. Après ce magnifique témoignage de Valentine Delecourt, nous accueillons à présent Léopold Van Bellingen, notre chroniqueur pour cette chronique de bioéthique. Léopold, vous allez nous parler aujourd'hui d'une nouvelle campagne de sensibilisation autour de la fin de vie.
Et oui, Guillaume, au milieu de cette actualité politique mouvementée, notamment avec l'élargissement de la loi sur l'euthanasie, eh bien, on peut vraiment se réjouir de cette nouvelle initiative concernant les soins palliatifs. Et donc, en ce mois de mars 2020, les trois fédérations belges de soins palliatifs ont lancé une campagne de sensibilisation pour changer l'image des soins palliatifs. Et cette campagne est intitulée « Bien plus que des soins ».
Et quel est le message que cette campagne veut faire passer, Léopold ?
Eh bien, l'objectif, c'est véritablement de changer les mentalités autour des soins palliatifs. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend soins palliatifs, on voit souvent hôpital, mourant, mort à brève échéance. Et la réalité, ce n'est pas systématiquement le cas. Ce qu'on voit, c'est que les équipes de soins palliatifs ont vocation à accompagner les patients et leurs familles à l'hôpital, effectivement, mais aussi à la maison ou dans les institutions de soins. Et donc, ce que la campagne veut véritablement faire entendre, eh bien, c'est le mot de qualité de vie, par exemple, au lieu de mort, vivant plutôt que mourant, personne plutôt que patient, et accompagnement plutôt que soin. Parce que les soins palliatifs visent effectivement vraiment un bien-être, tant physique que psychologique, social et spirituel.
Et comment le message de cette campagne est-il diffusé ? Quel est le mode de communication ?
Alors, on peut voir des affiches dans les rues, des publicités sur les réseaux sociaux, mais aussi des spots radio que vous avez peut-être déjà entendus. Et donc, cette campagne nous montre des situations touchantes parce que très simples, très personnelles. Par exemple, on a le cas de Martine qui aime passer du temps avec sa petite-fille, Simon avec son chien de compagnie ou Nadia qui apprécie simplement de prendre un bon bain. Et donc, ce sont des situations qui sont permises grâce aux soins palliatifs et dans lesquels chacun de nous peut se reconnaître et que chacun de nous peut apprécier. Et donc, chacune de ces affiches, de ces spots radio, nous renvoie vers un site web à la fin du spot radio, par exemple. Donc, ce site web, c'est bienplusquedessoins.be. Et vous allez trouver sur ce site, certaines explications sur ce que sont les soins palliatifs, qui peut en bénéficier. On y trouve d'autres témoignages encore, notamment de Fatima Chaoui, qui est une aidante proche, et aussi de Régine Hardy, qui est une psychologue spécialisée dans les soins palliatifs. Et donc pour terminer, ce que cette campagne met véritablement en valeur, c'est qu'un soin, ça peut simplement permettre un petit plaisir anodin qui n'aurait pas été possible sans ces soins palliatifs. Et donc, plus globalement, ce que la campagne veut vraiment nous montrer, c'est qu'au-delà de la douleur physique, au-delà de la même de la souffrance, la joie est possible. On peut, et même on a le droit, de vivre de belles choses au moment où on s'approche doucement de la mort.
Il y a encore une vie pendant les soins palliatifs. C'est bien ça le message de la campagne. Merci beaucoup, Léopold, pour cet éclairage. Et ceci clôt maintenant notre chronique de bioéthique. Merci beaucoup et chers auditeurs, à dans 15 jours pour notre prochaine chronique.